Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma thèse.
Aujourd'hui, nous recevons Maxime Rouzeau, qui vient clore le petit cycle des trois interviews que nous consacrons au travail de thèse tel qu'il se pratique au laboratoire de recherche en sociologie de l'UBO, le LABERS. Après la sociologie de la santé et la sociologie du travail, nous abordons maintenant la sociologie du sport, puisque son sujet, c'est le rôle du sport dans les politiques urbaines en tant qu'outil d'insertion sociale des jeunes. Le titre « Sport, citoyenneté et cohésion sociale auprès des jeunes issus des quartiers de la politique de la ville ». Bonjour Maxime.
Bonjour.
Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Alors, en quelques mots, donc moi j'ai un parcours qui n'est pas forcément linéaire, c'est-à-dire que j'ai un bac scientifique que j'avais validé en 2011 de mémoire. Et ensuite, j'ai voulu enchaîner sur des études à l'IUT en réseau et télécom, donc un domaine qui n'avait pas forcément grand-chose à voir avec la sociologie. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément fait pour ça. Donc, j'ai souhaité enchaîner directement après sur une licence STAPS. Donc voilà, j'ai intégré l'UBO en licence STAPS Management du sport. Et puis après, j'ai voulu continuer en Master Management du sport, qui à l'époque s'appelait le Master SATI. Alors l'acronyme veut dire Sport, Société, Santé, et ATI veut dire Administration, Territoire, Intégration. Mais grossièrement, c'est l'ancêtre du Management du sport ici à Brest.
D'accord, donc c'est totalement en cohérence avec le sujet qui
Exactement,
vous occupe aujourd'hui. Et vous êtes en quelle année là ?
Donc là, je démarre ma troisième année de thèse.
D'accord, et vos encadrants sont ?
Thierry Michaud, donc, qui est professeur des universités ici à la Faculté des sciences du sport et de l'éducation, et Charlotte Parmentier, qui est maîtresse de conférence à Paris Cité.
D'accord, et depuis votre sujet là, vous l'avez choisi comment ?
Alors, ça vient en partie de mon Master 1, où j'avais déjà un intérêt assez important pour la place du sport dans les quartiers, puisque mon mémoire de Master 1 portait sur le développement du football en salle, justement en Bretagne, avec des publics qui venaient notamment des quartiers dits prioritaires. Et par la suite, je me suis intéressé aussi à la... toujours à la place du sport dans les quartiers prioritaires, mais du côté de la région parisienne, avec une association qui s'appelle Action Prévention Sport, et qui propose tout un cycle de formation pour justement aider les jeunes à s'insérer ou à se réinsérer socialement à travers les activités physiques et sportives. Et de là est né un intérêt aussi particulier pour un terme qui est la citoyenneté, et que l'on retrouve de manière peut-être un peu galvaudée encore aujourd'hui, soit à travers les discours des politiques, soit à travers le discours aussi des médias. Et j'ai voulu justement mieux comprendre ce que la citoyenneté recouvrait justement à travers les pratiques sportives et le champ de l'animation socioculturelle. Et ensuite, j'ai voulu préciser mes recherches dans ce champ assez global de la sociologie du sport, en construisant un projet de thèse justement autour de la place du sport dans les quartiers de la politique de la ville, avec dans le titre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, des termes comme citoyenneté, que j'avais déjà commencé à traiter en master, ou encore cohésion sociale.
Donc c'est vous qui avez complètement déterminé votre sujet ?
Alors, je l'ai co-construit avec mes directeurs, et puis ensuite, on a, dans le cadre d'une bourse régionale, donc il y a un sujet qui a été aussi proposé à l'ensemble du réseau des sociologues du sport, et notamment des étudiants qui souhaitaient réaliser un doctorat, et j'ai postulé sur cette thématique qui était finalement très proche de ce que j'avais déjà fait en master. Et puis voilà, j'ai pu bénéficier d'une bourse régionale sur cette thématique-là.
Oui, donc vous avez la chance finalement de vous intéresser à un sujet qui est également proposé.
Exactement.
C'est assez rare.
Oui, c'est plutôt très rare. Ouais.
Précise, ouais, ouais. Entre les deux.
Exactement.
Donc vous avez un financement, et par ailleurs, j'imagine que vous faites aussi de l'enseignement.
Exactement. Alors dans le cadre de ma thèse, donc j'enseigne depuis la deuxième année, donc depuis l'année dernière. Et j'enseigne principalement à un public de licence, ça va de la licence 1 jusqu'à la licence 3, notamment sur des questions de sociologie du sport et de méthodologie.
D'accord. Même votre enseignement est spécifique à la sociologie du
sport. Pour l'instant, oui, c'est ça.
D'accord, parce que ça pourrait être de la méthodologie plus générale,
oui.
J'imagine que ça arrive.
Non, mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est plutôt de la méthodologie.
C'est
cohérent. Il y a une certaine cohérence, exactement.
C'est presque trop simple quand ça s'organise comme ça. Et du coup, donc si on en vient, vous avez déjà commencé à l'aborder, mais si on en vient vraiment à votre thématique,
oui.
Au sujet sur lequel vous travaillez, donc il y a plusieurs notions, il y a la citoyenneté, il y a la confrontation, enfin le rôle des institutions, on va dire, dans le parcours des jeunes.
Exactement.
Déjà, les jeunes, si on commence par là, enfin, comment vous quel est le public que vous avez ciblé,
oui.
La classe d'âge, parce que du coup, je pense que c'est une notion assez élastique.
Exactement, ouais. Totalement élastique d'ailleurs. Et c'est l'une des difficultés de la thèse aussi, c'est de définir qu'est-ce qu'un jeune, qu'est-ce que la jeunesse. Et on se rend compte, voilà, à travers les différents travaux qui ont été menés sur cette question, il n'y a pas vraiment de réponse précise. Mais moi, ce que j'ai voulu étudier plus précisément, c'est le public des 16-25 ans.
Oui, donc déjà, jeunes adultes presque.
Exactement.
La fin d'adolescence et jeunes adultes. D'accord. Et pourquoi cette tranche d'âge plutôt que, quelque part, on aurait pu s'attendre à, je ne sais pas, que ça s'arrête à 18 ans ou à 17, 18 ans
Oui, alors c'est en partie dû au fait que les institutions s'adressent généralement dans les dispositifs d'insertion ou d'insertion sociale par le sport plutôt à des publics allant jusqu'à entre 16 et 18 ans. Et finalement, les 16-25 ans sont un petit peu oubliés, justement. Même si d'autres dispositifs comme les missions locales sont totalement en lien avec les 16-25, mais les dispositifs d'insertion par le sport, notamment ici à Brest, sont pas forcément dédiés aux 16-25, et ce sont des jeunes qu'on ne voit pas aussi forcément dans les institutions. En particulier après 18 ans. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé d'aller capter un public parfois que le langage commun désigne comme invisible. Mm-hmm. Mais finalement, ils ne sont pas si invisibles que ça.
Parce que finalement, la vision de la jeunesse, elle est liée à la scolarité, au final.
C'est ça. Alors, ça peut être lié à la scolarité, ça peut être lié, je ne sais pas moi, à un premier emploi, au fait de quitter le logement familial. Voilà, il y a mm-hmm. tout un tas de critères qui pourraient aussi définir qu'est-ce qu'un jeune, qu'est-ce qu'un adulte, qu'est-ce qu'un jeune adulte finalement. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai défini en tout cas le public cible. Et quand je parle de jeunes, je parle aussi d'hommes, mais aussi bien de femmes.
Mmh.
Et on se rend compte que les femmes sont un peu plus invisibles encore que les invisibles, si je puis
dire. En rapport avec le sport.
Exactement, toujours avec le sport.
Ouais.
Voilà.
Okay. Et finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec le regard des institutions sur justement ce qu'est un jeune. Parce que comme vous travaillez sur la politique de la ville,
oui.
Donc la politique de la ville a forcément une vision de la jeunesse aussi. Du coup, vous avez dû vous caler, j'imagine, par rapport
à ça. Oui, en fait, les 16-25 correspondent totalement aussi à une tranche d'âge du public cible de la politique de la ville aussi.
Aussi, d'accord.
Voilà.
Et la citoyenneté, alors, parce que du coup, si j'ai bien compris, dans la politique de la ville, le sport est utilisé, enfin, quelque part, pour intégrer, enfin, comme outil d'intégration. C'est quoi la citoyenneté aussi ? C'est quoi ce désir d'utiliser le sport pour sensibiliser la jeunesse à ce qu'être un bon citoyen.
C'est ça. Alors c'est vraiment aussi tout l'objet de ma thèse. Hein. Donc j'aurais pas de réponse précise à vous donner. Mais généralement, quand on parle de citoyenneté, en fait, il faudrait plutôt parler de citoyenneté au pluriel, parce qu'on se rend compte qu'il y a différentes manières d'aborder la citoyenneté et d'être citoyen. Là, par exemple, je suis en train de rédiger un article pour une revue qui s'appelle Jurisport. Et j'essaye de montrer qu'il y a plusieurs formes de citoyenneté justement à travers les pratiques sportives. Et là, je m'intéresse plutôt du point de vue des professionnels du sport en me demandant pour eux que recouvre la citoyenneté. Et on voit de manière générale, hein, et ça recoupe aussi avec pas mal de travaux qui ont été faits sur cette question, qu'on peut distinguer deux types de citoyenneté. On a une citoyenneté plutôt verticale où justement les institutions essayent d'avoir un certain contrôle sur les individus. Donc là, en l'occurrence, ce sont plutôt les jeunes. Et à contrario, on a une citoyenneté dite plutôt horizontale où justement on favorise le vivre ensemble, le faire ensemble, etc. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que la citoyenneté n'est pas totalement verticale ou totalement horizontale, mais qu'on peut essayer d'articuler justement ces deux notions.
Oui, parce que alors, là, on va en venir alors, au terrain, plus
Oui.
spécifiquement. Donc, si j'ai bien compris, votre cadre, c'est la ville de Brest,
Exactement.
votre cadre d'études. Comment vous vous y êtes pris, du coup, pour réfléchir sur le sujet? Est-ce que vous imaginez que vous interrogez à la fois les jeunes, à la fois l'institution? Comment ça se passe?
C'est ça. Alors, la première difficulté était de définir justement le terrain, parce que le projet initial de la thèse concernait trois territoires, en fait, Brest, Rennes et la région Île-de-France, notamment Action Prévention Sport. Où j'avais réalisé mon stage de Master 2. Et la crise sanitaire est passée par là, donc il a fallu que je revoie un petit peu ma stratégie de recherche. Donc j'avais quand même réalisé des entretiens exploratoires du côté de Rennes et de la région parisienne, mais il a fallu que je recentre un peu mon terrain d'études. Donc j'ai décidé de réaliser ce qu'on appelle une monographie en sociologie sur le territoire brestois. Et en termes de sélection entre guillemets du public cible et des personnes que j'allais interroger ou observer pour ma thèse, naturellement ça s'est fait donc dans un premier temps en sollicitant ce qu'on appelle les professionnels du sport, ou en tout cas tous les professionnels qui sont investis sur la question du sport dans les quartiers. Et d'autre part, je m'intéresse aussi aux jeunes avec cette envie de leur donner la parole entre guillemets à travers cette thèse. Donc voilà, j'ai vraiment deux grandes familles. De public, c'est-à-dire d'un côté les professionnels du sport et de l'autre les jeunes qui bénéficient des actions soit de la collectivité ou qui pratiquent aussi de manière plus autonome, donc à distance des institutions.
Et du coup, vous avez déterminé des grilles d'entretien spécifiques pour chaque
Exactement,
public?
ouais. Donc j'ai une grille qui est plutôt orientée pour les professionnels et une grille qui est plutôt orientée pour les jeunes. Mais j'ai également établi une grille d'observation. Donc ce sont des outils assez classiques en sociologie finalement.
Oui, du coup, la période d'observation, elle a été, j'imagine, reportée un peu à cause des événements
Exactement.
sanitaires. Mais vous avez pu commencer ce travail-là depuis quelques
Oui,
mois, là.
et puis en fait je me suis adapté finalement la première année, parce que je voulais directement aller sur le terrain, mais avec la crise sanitaire, c'était pas possible. Donc j'ai ajusté ma méthode de recherche et j'ai réalisé des visios, enfin voilà, je me suis adapté. En tout cas pour la première année.
Oui, puis j'imagine que vous avez du coup passé plus de temps sur la recherche bibliographique, compléter un peu,
Ouais. Et finalement, oui, c'est ça. C'est que.
approfondir
Ouais.
les éléments théoriques. Et du coup, votre démarche, vous la qualifieriez de comment?
Alors, ma démarche méthodologique, je la qualifierais d'inductive. Et comme je le disais tout à l'heure, avec cette volonté de donner la priorité aux données du terrain. Quand je dis donner du terrain, c'est soit les professionnels du sport, ou soit directement les jeunes. Voilà. Donc c'est vraiment cette volonté de leur donner la parole et de valoriser le plus possible toutes les données que j'ai pu récolter au cours de ma thèse.
Du coup, mais ça, c'est un peu une caractéristique du Labers, non? Parce que comme j'y ai déjà eu une interview avec deux de vos camarades, j'ai l'impression que cette importance portée au terrain, enfin, cette primauté du terrain est
Ouais,
partagée.
alors c'est vrai que je me suis pas forcément posé la question, mais en y repensant, c'est vrai qu'en discutant avec les différents doctorants ou même les différents membres du Labers, on a cet attrait, je pense, pour le terrain, pour la valorisation des données de terrain. La partie plutôt qualitative de la sociologie.
Et un entretien, ça dure à peu près combien de temps?
Alors ça dépend. Ça dépend du public. Alors pour les professionnels du sport. Certains sont plutôt bavards, donc on peut être sur des entretiens de 2 heures jusqu'à 2 heures et demie, voire 3 heures des fois.
Vous mettez pas de limite en fait, vous profitez
Non.
si la parole
Non,
coule,
non,
vous
c'est.
prenez quoi.
Voilà, c'est plutôt libre, avec cet objectif de vraiment de leur laisser le temps de parler, donc d'aller vraiment dans le détail. Et pour des jeunes, alors ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes sont un peu moins bavards, en tout cas, mais ça dépend lesquels. Parce que les entretiens tournent autour d'1 heure, la plupart du temps. Mais voilà, j'ai un contre-exemple la semaine dernière, par exemple, où j'ai réalisé un entretien avec un jeune qui a duré plus de 2 heures et demie, par exemple. Voilà.
Et comment vous y êtes pris pour rentrer en contact avec eux?
Alors, de différentes manières, soit par l'intermédiaire des éducateurs ou des animateurs de quartier, hein, qui travaillent dans les structures de quartier, soit en passant par l'émission locale, qui accueille spécifiquement le public des 16 à 25 ans, soit avec le bouche à oreille, ou soit en allant directement à la rencontre de certains jeunes au cours de créneaux sportifs. Donc c'est ça aussi toute la difficulté de la thèse, c'est de justement d'aller au contact de ces jeunes et essayer de les convaincre de réaliser un entretien par la suite, parce que ça peut aussi faire peur, hein, justement ce bon entretien quand on est un jeune. Voilà, donc c'est de cette manière que je m'y suis pris.
Et vous en avez réalisé à peu près combien?
Alors, si on compte les entretiens exploratoires avec les professionnels, j'ai pour l'instant réalisé plus d'une trentaine d'entretiens. Et en ce qui concerne les jeunes, je dois être à peu près à 15-20 entretiens.
Et vous poursuivez?
Oui.
D'accord. Et vous savez, quelle est votre limite, finalement, quand est-ce... Enfin...
Alors, j'ai pas
Comment
forcément
vous allez
limite.
Vous arrêter
ouais, Non, j'ai pas forcément limite. Et c'est la spécificité aussi de la méthodologie que j'ai voulu employer, hein, qui s'appelle la théorie ancrée. Eh bien, j'arrêterai quand je verrai qu'il y a une certaine saturation des données.
C'est-à-dire qu'on a des répétitions, des
voilà.
choses qui ça vous apporte plus rien.
Voilà, c'est ça.
C'est ça qui vous... Ouais, parce que c'est pas facile.
Non,
j'imagine qu'on a toujours envie, puis chaque individu a sa couleur particulière.
Exactement.
Et du coup, forcément, toujours plus, quoi.
Mm. Oui, exactement.
D'accord.
C'est ça la grosse difficulté de la thèse, c'est de se dire à un moment, voilà, j'arrête. Mais pour l'instant, j'en suis pas là.
Oui, parce que là, oui, du coup, il vous reste encore votre financement, c'est pour 3 ans.
Exactement, c'est 3 ans, ouais.
Mais vous pensez que ça vous suffira pour arriver à terme ou...
Alors, honnêtement, non, parce que voilà, si on regarde un petit peu la durée d'une thèse en sociologie, on est plutôt sur 4-5 ans.
Ce que me disaient vos camarades aussi. Ouais.
Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai un financement de 3 ans, mais je pense que ça va durer 4-5 ans.
D'accord. Donc vous ne vous dites pas, bon voilà, encore une année où je peux collecter des données et puis stop, et là il faut que je passe à l'analyse, à la rédaction.
Bah, je vais faire du mieux que possible, mais voilà, en tout cas le financement s'arrêtera l'année prochaine, mais je garde à l'esprit que ça va durer le plus
Un peu
longtemps.
Plus.
Ouais.
D'accord. Et vous l'envisagez sereinement, ça? Ouais, ça va.
J'essaye. J'essaye.
Et donc, vous avez parlé de la théorie ancrée.
Ouais.
Vous pouvez la définir un peu plus, cette théorie?
Alors, la théorie ancrée, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment de donner la priorité aux données du terrain, à contrario de la méthode dite hypothético-déductive qu'on retrouve en sociologie. En fait, c'est, pour le dire rapidement, c'est le fait d'avoir une problématique de recherche et de poser des hypothèses qu'on va essayer de vérifier. Donc ça, c'est la démarche hypothético-déductive. Mais moi, je suis plutôt... à contre-courant, entre guillemets, où justement j'ai une problématique de recherche, mais je n'ai pas d'hypothèse à proprement parler que je vais essayer de vérifier. C'est vraiment les données et la répétition des données qui vont constituer des catégories d'analyse finalement et qui vont orienter la recherche. Donc la recherche est un peu mouvante comme ça tout au long du terrain où je vais récolter et analyser les données.
Et du coup, il y a un penseur particulier auquel vous vous référez, enfin, ou un courant de pensée plus précisément?
Alors, pour la théorie ancrée, il faut aller voir du côté de la sociologie plutôt américaine et de l'école de Chicago, avec des auteurs comme Glaser et Strauss, par exemple, ou des auteurs canadiens aussi, comme Pierre Payet, qui ont vraiment théorisé autour de cette méthodologie-là. Et en termes d'analyse de données, je me réfère plutôt à un courant de pensée qui est proche des travaux de Bernard Lahire, notamment, qu'on appelle une sociologie dite dispositionnaliste et contextualiste.
Voilà. Oh là là, ça fait beaucoup de hist.
Exactement.
Et alors, qu'est-ce que ça apporte par rapport justement à la théorie ancrée? Enfin, quelle est la...
Eh bien, je dirais que les travaux de Bernard Lahire viennent compléter en fait la théorie ancrée. Donc, la théorie ancrée, c'est vraiment la démarche de recherche. Comment est-ce que je récolte mes données? Et les travaux de Bernard Lahire, notamment, hein, mais il n'y a pas que lui, m'ont permis d'orienter plutôt mon analyse d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment une articulation entre ces deux courants de recherche.
Et j'imagine aussi qu'il y a tout ce qui a été écrit en sociologie du sport.
Exactement.
D'accord. Et là, il y a un nom qui se détache plus particulièrement.
Il y en a plusieurs. Alors, il faut savoir qu'en France, la sociologie du sport est plutôt féconde sur la thématique du sport dans les quartiers depuis les années 80. Mmh. Ce qui coïncide aussi avec la formalisation de la politique de la ville. Donc on voit que c'est assez lié. Et oui, il y a plusieurs noms, hein, comme William Gasparini, Sandrine Knobé, Gilles Vieille-Marchizet. Donc là, on est plutôt sur une équipe de recherche qui est du côté du sud-est de la France. Plutôt du côté de Strasbourg, donc c'est pas forcément du sud-est.
Non, c'est plutôt le nord-est.
Exactement.
C'est à l'est. D'accord.
Exactement, c'est plutôt à l'est. En région parisienne, je pense aux travaux de Jean Jourdan ou de Dominique Charrier ou encore de Charlotte Parmentier, hein, qui est ma co-directrice de thèse. Je pense aussi à l'équipe de Rennes aussi qui travaille sur ces questions-là. Donc ça reste quand même une question assez...
Oui, assez étudié finalement.
Assez étudié, ouais.
Mais alors du coup, on se pose la question de la nouveauté. Enfin, comment apporter quelques... Parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui travaillent sur ce sujet-là.
Ouais.
Il faut quand même avoir quelque chose de nouveau à dire, j'imagine. Enfin, une approche un peu nouvelle.
Ouais.
Et ça, c'est pas un souci du coup quand il y a beaucoup de productions sur la thématique sur laquelle on travaille.
Si. Et puis c'est une autre difficulté qui s'ajoute à la thèse, c'est de montrer comment est-ce qu'on a essayé d'étudier la place du sport de manière un peu différente. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés de manière un peu macro-sociologique. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'aller plutôt à l'inverse dans ce qu'on appelle la micro-sociologie, en m'intéressant surtout au parcours de vie des professionnels du sport ou au parcours de vie des jeunes. Donc, c'est vraiment essayer de rentrer dans le détail de ces parcours.
D'accord, oui, parce que ça, c'est une autre notion importante, c'est la trajectoire.
Oui.
Et le sport est vécu toujours comme il y a toujours la notion de passage, de rite de passage, d'initiation.
Oui, alors le sport est vécu de différentes manières en fait par les jeunes, hein. Et on voit que c'est un élément qui reste quand même assez structurant pour certains de ces jeunes, parce que au cours de mes entretiens, j'ai vu que le sport avait permis à certains d'entre eux justement, soit de se professionnaliser dans le sport, soit de jouer à un certain niveau, donc soit professionnel ou semi-professionnel. Mais à l'inverse, j'ai aussi remarqué que le sport était aussi juste un passe-temps pour quelques jeunes, une parenthèse dans une vie. Donc on voit que le sport est structurant dans un parcours juvénile, mais de différentes manières.
Mmh. Oui, parce que finalement, par rapport au sujet de départ, est-ce que le sport joue le rôle attendu de lui par les institutions? Enfin, je veux dire, du point de vue de l'institution, est-ce que du coup, le sport est vraiment un élément d'insertion ou pas? Est-ce que vous allez répondre à cette question-là? Je ne sais peut-être pas pour l'instant les éléments de réponse.
Oui, et puis...
Quelle est son efficacité, finalement, ouais, du point de vue de la ville, pour le coup?
Exactement. Alors, je vais répondre une réponse qui n'est pas forcément nouvelle, mais notamment les travaux en sociologie du sport ont montré que le sport, quand il est utilisé dans les quartiers, n'est pas forcément vertueux ou n'apparaît pas comme un remède miracle. En fait, il faut plutôt se dire que le sport porte les valeurs qu'on lui attribue aussi bien positives, alors ça peut être le dépassement de soi, la cohésion, le fair play, etc. Mais s'il est perçu de manière plutôt négative, on voit qu'il est plutôt contre-productif.
Mais alors, il peut être perçu de façon négative?
Alors, pour certains professionnels du sport, notamment quand on les observe ou quand on les écoute, on peut déceler parfois des discours qui sont liés, au sexisme, à des manières d'être qui sont plutôt sexistes par rapport à un public féminin. On peut aussi relever des attitudes qui sont liées au racisme, etc. Donc ce sont plutôt des aspects vraiment négatifs du sport.
Que vous avez, qui sont réels.
Oui, qui sont réels, exactement. Ouais. Qui ne sont pas forcément flagrants, donc il faut essayer aussi de lire entre les lignes, notamment pendant les entretiens. Mais le sport peut être perçu de manière positive, mais aussi négative, tout ce qui a trait autour de l'homophobie, du sexisme, du racisme, de la fraude, quand on parle du sport professionnel, par exemple.
Et ça, vous l'abordez aussi, cet aspect négatif
oui, exactement,
dans votre travail.
Ouais.
Et donc, est-ce que vous avez noué des partenariats particuliers, de fait, avec la ville, j'imagine, avec les travailleurs éducatifs ?
Oui. Donc, quand j'ai cherché justement à rentrer en contact avec des institutions, je me suis tourné naturellement vers la direction des sports et du nautisme à Brest. Qui a un service donc qui s'appelle Sport et Quartier. J'ai été à leur rencontre. Ils m'ont ouvert entre guillemets les portes du terrain aussi avec des créneaux sportifs qui encadrent ou participent en tout cas. Ils participent aussi à l'organisation d'événements dits socio-sportifs. Donc voilà, c'est vers la direction des sports et du nautisme. Que je me suis tourné dans un premier temps. Je me suis aussi tourné vers les missions locales, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont eux aussi un créneau le jeudi après-midi avec les jeunes qu'ils accueillent, qui est en partenariat aussi avec le service sport et quartier. Et je suis allé aussi de manière plus spontanée en direction des structures dites de quartier, donc les maisons pour tous, les patronages laïques.
Oui, le milieu associatif
exactement.
Aussi, finalement, pas que...
Le milieu associatif, plutôt orienté vers l'éducation populaire, mais qui reste toujours en contact étroit avec les jeunes des quartiers.
Et il y a une différence, d'ailleurs, d'organiser... Enfin, je sais pas, la façon de percevoir le sport, justement, entre le milieu associatif et le milieu plus... Celui de la ville c'est similaire ou...
Pour l'instant, ce que je retrouve, oui, c'est que c'est plutôt similaire. Ce qu'il faudra aller voir, c'est plutôt du côté des pratiques fédérales, c'est-à-dire le sport fédéral, plutôt dans les fédérations sportives, style la Fédération française de foot, etc. Donc, moi, je suis plutôt au contact de jeunes qui ne sont pas forcément justement inscrits dans un club.
Oui, qui n'ont pas forcément le projet dès le départ d'en faire...
Non, ouais. Ils peuvent en faire, mais pas forcément. Donc ça montre que parce qu'on dit généralement que les jeunes des quartiers pratiquent moins de sport que les jeunes qui sont en dehors...
Je me souviens qu'on en avait discuté, ça m'avait surprise.
Ouais.
Je pensais que c'était le contraire, moi, de façon...
Non. Je regardais, donc chiffre à l'appui, à Brest, il y a environ 5 fois moins de jeunes qui sont inscrits dans un club. Et qui habitent les quartiers prioritaires que s'ils habitaient en dehors des quartiers prioritaires. Du coup, ça m'oblige à aller voir la manière dont ces jeunes pratiquent, est-ce qu'ils pratiquent de manière différente ? Et on voit que oui, ils sont plutôt sur des pratiques aussi dites auto-organisées. Alors, quand je parle de pratiques auto-organisées, ça peut être un foot sur un city stade, un basket. Donc c'est toutes ces pratiques dites autonomes.
Oui, donc vous avez aussi une approche en fonction des milieux sociaux. J'imagine que ça intervient dans votre étude. Ou
oui,
pas
alors moi j'ai la chance, entre guillemets, de m'intéresser à un seul milieu social qui est plutôt populaire, même si on voit que dans les quartiers de la politique de la ville, on a aussi des jeunes qui réussissent très bien leur parcours scolaire ou professionnel et qui sont amenés soit à quitter le quartier à un moment donné et à profiter d'une certaine ascension sociale.
Et vous avez eu des projets annexes votre thèse, vos travaux là, vous avez participé à des colloques, vous avez rédigé des articles, vous avez déjà communiqué.
Exactement.
Autour de votre travail.
Ouais, et puis c'est l'une des difficultés aussi quand on est doctorant avec toutes ces premières communications qui sont jamais forcément évidentes. J'ai voulu essayer de communiquer assez rapidement pour essayer de confronter mes résultats justement à la communauté scientifique. Alors par exemple l'année dernière, j'avais réalisé une communication au congrès de la 3SLF, donc c'est vraiment le congrès dédié à la sociologie du sport en langue française, qui avait lieu à Rennes. Et quelques semaines plus tard, je suis allé en Corse, à Corté, où pareil, j'ai aussi présenté mes premiers résultats. Donc ça fait partie des projets annexes de la thèse. Et au-delà de ça, avec les doctorants du Labers, l'année dernière, on avait mis en place un cycle de séminaires sur la question du sensible. Qu'est-ce que recouvre le terme de sensible dans nos recherches en tant que doctorant ? Donc c'est un autre projet annexe.
Une curiosité un peu à part, mais comment vous avez pu rattacher la question du sensible à votre thématique ?
Alors, on l'a abordé de différentes manières. Par exemple, quand on traite des données dites sensibles, c'est-à-dire des données qui touchent directement les individus.
D'accord, point de vue là, ouais.
Donc, on peut le voir de cette manière-là. Moi, sensible, en fait, il est apparu de manière assez spontanée parce que les quartiers prioritaires, on les désigne aussi comme des quartiers dits sensibles. Donc voilà, c'est de différentes manières qu'on a essayé de traiter cette question-là du sensible.
Oui, moi je voyais tout de suite le sens, la sensibilité.
Oui, bah,
et pas forcément, mais effectivement.
Ça peut aussi être une manière de l'aborder.
Oui, il y a plusieurs façons de l'aborder.
Ouais.
Et est-ce que vous pouvez déjà. Oui, j'imagine que vous avez maintenant suffisamment de recul. Est-ce que ce travail de thèse a changé quelque chose pour vous dans votre façon d'être ou de voir les choses? De quelle façon ça vous a enrichi?
Alors, je pense que ça m'a enrichi. D'abord, avant tout, sur le plan méthodologique, hein, sur la manière de travailler, parce que j'ai la chance d'avoir des directeurs de thèse qui sont quand même assez rigoureux.
Est-ce que vous les voyez régulièrement?
Oui. Oui, on essaie de se voir au moins une fois par mois ou tous les mois et demi pour faire un point. Donc, je dirais que ça a changé ma manière aussi de travailler.
De la rigueur, ça vous a apporté
de la rigueur, la façon de structurer ma pensée. Et de m'imposer aussi un certain rythme de travail avec des échéances. Voilà, donc je pense que c'est une bonne manière aussi de se préparer à la vie professionnelle ou à la vie universitaire si on vise plutôt cette voie-là.
D'accord, c'est tout ce que. Voilà, le reste, pas de mauvaise surprise, pas de déception par rapport à ce que vous aviez pu projeter sur ce qu'était le travail de thèse?
Non, c'est vrai que je m'étais plutôt. Documenté sur ce qu'était la thèse, mais en discutant aussi avec d'autres doctorants qui sont passés avant moi sur cet exercice-là, j'étais assez préparé et en ayant toujours à l'esprit que c'est un peu, voilà, le travail de thèse, c'est un peu comme les montagnes russes, c'est-à-dire que des fois, on est dans une période de doute, voilà, on se demande, est-ce que je vais y arriver, est-ce que mon travail va vraiment être utile, mais à d'autres moments on est un petit peu aussi sur un nuage quand on a réussi une communication ou quand on sait qu'on va être publié pour un article, etc.
Vous avez déjà publié un article?
Non, je suis en cours de rédaction pour une revue qui s'appelle Jurisport. Et justement, je m'intéresse à la question de la citoyenneté,
que
recouvre la citoyenneté justement pour les professionnels, les professionnels du sport.
D'accord. Oui, donc vous avez déjà la revue finalement.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc j'ai été sollicité entre guillemets pour.
C'est une demande. C'est... Ouais. D'accord. Et vous faisiez pas aussi un travail de commentaires ou des notes?
Si, alors ça c'est ça c'est un travail un peu annexe, un peu particulier.
Vous connaissez pas,
oui. Oui, parce que alors ça vient du Master 2, donc j'avais un enseignant qui s'appelle Julien Fuchs, qui est historien du sport, mais qui était très investi aussi dans le master management du sport. Et on avait un cours qui s'intitulait, je sais plus, je crois que c'était notes de lecture ou recension. Et l'objectif, c'était de lire un ouvrage et d'en faire une synthèse. Et cette synthèse, on pouvait la proposer à une revue. Et c'est vrai que j'y ai pris goût. Et donc, là, pour l'instant, j'ai dû en réaliser 5 ou 6, je crois, de mémoire. Donc voilà, c'est vrai que...
Qui ont été publiés, du coup.
Oui, c'est ça.
Et vous avez des projets, j'imagine. Est-ce que vous avez imaginé la suite?
On essaie toujours d'imaginer la suite, même si ça reste un peu flou. Mais dans un monde un peu idéal, j'aimerais continuer dans le milieu universitaire. Toujours en gardant à l'esprit que ça va être compliqué, parce que voilà, il y a quand même très peu de postes en sociologie et en sociologie du sport. Donc voilà, j'essaie aussi d'avoir des plans B, mais toujours en restant dans le domaine de la recherche si possible.
Oui, donc vous avez vraiment rencontré le monde de la recherche, vous plaît, vous souhaitez dans l'idéal continuer.
Ah oui, c'est ça, ouais, totalement.
Et vous avez pensé à des retombées par rapport à votre travail, justement?
On espère toujours que le travail qui va être mené va servir à quelque chose. J'espère que il sera utilisé alors soit par la collectivité, mais j'espère aussi que ça servira à d'autres chercheurs qui vont travailler sur cette question du sport dans les quartiers, mais aussi de la citoyenneté. On espère toujours que ça va être utile. Ouais.
Et maintenant, l'instant lecture.
J'ai essayé, entre guillemets, d'innover. Hein. Alors, si on revient sur les lectures, je pense que tous les travaux de Bernard Lahir sont vraiment très éclairants. Je pense notamment à des ouvrages comme Tableau de famille ou Enfance de classe, qui permettent justement, pour des étudiants, pas forcément en sociologie.
En sociologie, oui, j'imagine.
Non, mais
ça peut
voilà.
Intéresser c'est... aussi ouais. Des amateurs éclairés.
C'est ça.
Qui s'intéressent au sujet.
Ouais, quand on s'intéresse à ce que recouvre la socialisation, je pense que c'est un auteur assez phare. Je pense aussi aux travaux de Muriel Darmon, qui a vraiment travaillé aussi sur cette question de la socialisation. En termes de sport dans les quartiers, bah, comme je le disais, les travaux de William Gasparini, de J.J. Marchizet et de Dominique Charrier notamment sont...
Ils ont écrit ensemble ou c'est,
Non,
c'est
alors J.J. Marchizet et William Gasparini, comme ils font partie du même laboratoire, ont plutôt travaillé ensemble. Mais Dominique Charrier n'a pas forcément travaillé avec eux. Mais je pense que là, ce sont des auteurs clés, en tout cas sur la question de la place du sport dans les quartiers. Quand vous m'avez demandé de choisir plusieurs textes, je me suis dit bah, pourquoi pas aussi parler de la musique et du rap.
Vous êtes libre de nous parler de ça.
Voilà.
C'est la première fois, mais pourquoi pas.
Ouais,
allez-y.
Parce que
de façon plus personnelle, parce que là finalement, nous avons nommé plutôt des travaux universitaires. Donc, alors
Alors, j'ai pas forcément de titre comme ça à vous proposer, mais je dirais que le rap permet aussi d'avoir une photographie de ce qui se passe dans les quartiers et de comment les jeunes aussi vivent dans les quartiers. Et puis, on a beaucoup de textes qui font référence aussi, bah, soit au football ou à la réussite de certains jeunes qui viennent des quartiers et qui ont réussi dans le football. Mais ça permet aussi d'avoir une idée de comment les jeunes ressentent aussi le poids des institutions.
Dans le rap, c'est traduit
Oui.
Ah oui.
Alors, des fois, de manière un peu crue.
Un peu crue, un peu violente.
Peu crue. Et puis, on voit que le rap des années 90 et le rap d'aujourd'hui, finalement, est assez similaire, même si le vocabulaire a évolué. Mais je pense que c'est une bonne manière de traiter aussi la jeunesse qui vient des quartiers prioritaires. En s'intéressant précisément à toutes les paroles de rap. Voilà.
Ça peut être l'objet d'un prochain travail.
Ah bah ça pourrait, oui.
Ça pourrait. Vous en servir comme corpus.
Oui, totalement, oui. Ça pourrait être une étude qu'on mène sur une série de, je sais pas moi, de textes qui sont liés au rap et de voir justement... alors moi, c'est plutôt pour mon sujet d'étude, mais voir quelle est la place du sport. Et je pense qu'on sera assez étonné de voir que, justement, le sport est assez présent dans le rap.
Et vous n'avez pas de nom en tête, plus particulièrement
Alors plutôt des groupes. Alors si on est plutôt
pas dans... une liste.
Si on est plutôt dans les années 90, 2000, je pense au groupe NTM, par exemple.
Ça, je connais.
Voilà. Je pense à des rappeurs comme This Is La Peste ou Oxmo Puccino aussi. Mais voilà, donc j'ai pas forcément de groupe en particulier. Mais je pense que le rap est une bonne manière aussi. On pourrait faire une sociologie du sport dans les quartiers à partir d'un corpus de données, par exemple, sur le rap.
Des textes de chansons, en fait.
C'est ça, ouais.
Merci.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Au revoir.
Au revoir.
Le Lab U.
La Bibliothèque universitaire et Radio U vous ont présenté Histoire de ma thèse.
las 5 de la mañana y ya amanece. Guapachanga bien vestido aparece. Todos en el barrio están descansando y Guapachanga en silencio va pensando que aunque su vida es fiesta y ron, noche y rumba, su plante es falso igual que aquel amor que lo engañó. Y la luz del sol se ve alumbrando y Juan Pachanga el mamito va penando, vestido a la última moda y perfumado, con zapato en colores yeye y ilustrados. Los que encuentran en su camino lo saludan. ¡Amen! ¡Qué feliz es Juan Pachanga! Todos juran, pero llevan el alma el dolor de una traición que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor. Y mientras la gente duerme aparece Juan Pachanga con su pena y amanece.
Thank you.